Madame, Monsieur, bonjour. Plus de deux décennies après la réunification, 20 ans après le traité de Maastricht, 10 ans après l'introduction de l'euro fiduciaire, l'Allemagne apparaît comme un pôle de stabilité et de prospérité enviable pour ses voisins et partenaires. Pourtant, les questions sur son avenir ne manquent pas. Que va-t-elle faire de sa puissance ? Grande Suisse ou nouvel acteur mondial ? Attachement au couple franco-allemand ou porte de sortie vers les grands marchés mondiaux ou plus modestement percée à l'Est ? Déclin démographique ou nouvelle identité multiculturelle ? Stabilité politique et sociale ou nouvelle mutation générée par la mondialisation ? Pour en explorer les principales dimensions et analyser les enjeux, la documentation française vient de publier dans sa revue « Questions internationales » un numéro intitulé « Allemagne, les défis de la puissance ». Des universitaires et chercheurs expriment leur point de vue personnel et ouvrent des débats. Parmi eux, Georges-Henri Soutou, académicien de l'Académie des sciences morales et politiques, historien et professeur émérite à l'Université de Paris 4 Sorbonne, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre studio. Monsieur Soutou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Et merci madame pour votre invitation.
Dans cette revue, votre article « Une histoire tourmentée, l'Allemagne unie ou désunie » rappelle des constantes historiques importantes pour bien comprendre la situation actuelle. Avant que vous nous donniez votre point de vue au micro, je souhaite rappeler à nos auditeurs que vous avez été professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 4 Sorbonne, au sein de laquelle vous avez dirigé le Centre d'histoire des relations internationales et de l'Europe, ainsi que vous avez dirigé aussi l'école doctorale Monde contemporain. Spécialiste de l'histoire des relations internationales au XXe siècle, docteur d'État après une thèse sur les buts de guerre économique de la Première Guerre mondiale, vous vous êtes spécialisé dans l'histoire des relations franco-allemandes depuis 1945 et dans l'histoire de la guerre froide. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur ces questions. Je citerai notamment « L'Europe » de 1815 à nos jours, publié en 2007, et un autre ouvrage, « L'Alliance incertaine, les rapports politico-stratégiques franco-allemands de 1954 à 1996 », publié en 1996. Vous êtes, je crois, vice-président de la commission de publication des documents diplomatiques français et membre du conseil de direction du CERFA, qui est le comité d'études des relations franco-allemandes créé en 1954 entre la République fédérale allemande et la France. Je rappelle aussi que vous avez été élu le 8 décembre 2008, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, dans la section Histoire et géographie, au fauteuil laissé vacant par le décès de Raymond Barre. Monsieur Soutou, quel regard l'historien que vous êtes pose-t-il sur l'Allemagne d'aujourd'hui et sur sa place en Europe ?
Eh bien, pour commencer, je dirais un peu en forme de boutade, mais boutade quand même sérieuse, que l'Allemagne est désormais, depuis sa réunification, un pays normal et que la place qu'elle occupe en Europe est sa place normale en Europe, c'est-à-dire au cœur de l'Europe d'une part, et sinon en tête, du moins au premier rang, étant donné que ça a été sa vocation normale depuis le Moyen-Âge, sauf les périodes où elle s'est retrouvée divisée à cause de ses dissensions internes ou de la politique de ses voisins. Cela étant dit, c'est peut-être pour nos auditeurs un peu court, qu'est-ce qui fait la normalité maintenant de l'Allemagne ? C'est enfin un État-nation européen avec des frontières clairement définies, sans problème de minorité, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. C'est comme les autres États, l'Italie, l'Espagne, la France, bon, d'une part. Et d'autre part, la place de l'Allemagne en Europe n'est pas simplement une place économique ou géopolitique, c'est la place qu'elle doit au fait que son système politique, c'est-à-dire le fédéralisme, pour dire les choses d'un mot, est particulièrement bien adapté au système que l'Union européenne, lentement et difficilement, met en place. Les Allemands ont moins de problèmes que nous avec la construction européenne. Ils ne sont pas forcés de revoir leur constitution à chaque nouvelle avancée, si vous voulez, à Bruxelles, comme C'est régulièrement le cas chez nous. D'autre part, psychologiquement et intellectuellement, culturellement, je dirais, l'Allemagne a complètement abandonné ses traditions militaires, nationalistes, etc. Elle pratique maintenant une culture du consensus, une culture de la paix, une culture de la démocratie comme modèle et comme instrument de pacification pour l'Europe elle-même et pour le voisinage de l'Europe, qui correspond profondément à ce que les Européens croient et ressentent aujourd'hui. Il y a une certaine adéquation entre ce que pensent les Allemands dans ce domaine et ce que pensent les autres Européens. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des différences, en particulier dans la crise financière actuelle. On se rend bien compte que les dirigeants allemands, le peuple allemand, sont plus réticents que d'autres à mutualiser les dettes de l'Europe. L'Allemagne, qui est le principal contributeur de l'Union européenne, souhaite évidemment mettre des limites très strictes à ses engagements financiers supplémentaires. Ça, c'est certainement en ce moment un sujet de crise. Mais je voudrais faire comprendre aux auditeurs que le rôle de leadership actuel de l'Allemagne en Europe, qui est évident, je dois le dire comme une évidence sans polémiquer le moins du monde, n'est pas le résultat d'une quelconque fraude. Il est tout à fait compréhensible, étant donné la politique menée depuis sa création par la République fédérale dans le sens de l'intégration européenne et l'intégration allemande en Europe. Cette politique finit par remporter des fruits. Et d'autre part, ce qu'on appelle le modèle allemand, pour parler brièvement, et vous avez un excellent article de Mme Bourgeois dans ce numéro de Questions internationales, parfait, d'une finesse de précision et en même temps d'une précision sur cette question de modèle allemand beaucoup plus complexe que ça, mais il y a une réalité incontestablement qu'elle décrit très bien et qui explique cette situation. Voilà le regard que l'historien peut porter sur l'Allemagne aujourd'hui. Alors, si je peux encore rester une seconde sur cette question, et là je reviens à la crise économique et financière actuelle. On dit l'Allemagne, en fait ce sont les Allemands, et il y a différentes catégories, en Allemagne aussi il y a des débats. Pour dire les choses très brutalement, bonne partie de la population des dirigeants allemands sont obsédés par le souvenir de l'inflation des années 20 et de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et l'autre partie de la population, dont on parle moins pour des raisons sociologiques, est obsédée moins par ces périodes d'inflation que par la période de chômage extrême des années 30. En d'autres termes, il ne faut pas dire qu'en Allemagne, il n'y a pas de débat sur la situation actuelle. Il ne faut pas dire que la politique de rigueur budgétaire qui se traduit par, la réunification allemande, par des impôts élevés, par des restrictions de prestations sociales qui sont très, très incisives, qui vont très loin. Les Allemands l'acceptent parce qu'on leur a fait comprendre que c'était nécessaire, mais ce n'est pas de gaieté de cœur et c'est en échange, disons, d'une mécanique économique qui continue à tourner. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, elle devait tourner moins vite, moins bien, si la conjoncture se détériorait, on pourrait avoir en Allemagne, sur le plan social et sur le plan politique, sur le plan des élections tout simplement, on pourrait avoir des évolutions assez différentes de la situation actuelle. Il ne faut pas penser que cette Allemagne normale, mais qui quand même exporte 50% de sa production, ce qui là n'est pas normal, c'est excessif pour l'équilibre économique d'un pays. Il ne faut pas penser que ce pays est sans problème. Il a le problème que je viens d'évoquer. Il a un problème démographique, puisque la population allemande commence à diminuer. Les projections sont toujours hasardeuses. Mais enfin, quand même, les Allemands qui ne sont pas nés l'année dernière n'auront pas 20 ans dans 20 ans. Ça, c'est une réalité. Et puis, dernier point, la culture du consensus qui est très pratiquée, qui va très très loin, présente d'énormes avantages du point de vue social, psychologique. On vit agréablement en Allemagne, les gens n'ont pas l'impression d'être bousculés, d'être stressés. Il y a une contrepartie, c'est que l'innovation se fait peut-être moins facilement jour qu'ailleurs. Je ne veux pas dire que l'Allemagne n'innove pas, mais au sens des découvertes scientifiques, techniques, des innovations, etc. Mais dans des tas de domaines, la France, malgré tous ses problèmes, une capacité d'innovation qui lui permet de ne pas rougir en comparaison avec l'Allemagne. Je ne veux pas entrer dans des domaines qui ne sont pas vraiment les miens, mais les chiffres qui viennent d'être publiés récemment du nombre de brevets pris chaque année dans l'Union européenne, je crois que la France est en tête, alors que sa population est quand même inférieure à la population allemande. L'Allemagne vient juste derrière, hein, c'est tout à fait équilibré. Mais enfin, nous n'avons pas à rougir dans tous les domaines, je le signale quand même au passage.
Oui, vous avez prononcé le mot de leadership. Bon, l'Allemagne est le premier contributeur de l'Europe, vous l'avez rappelé. c'est la première puissance économique de l'Europe. Il y a tout de même, à l'heure actuelle, me semble-t-il, donc un déséquilibre que l'on constate entre l'Allemagne et la France. Et quelles conséquences peut avoir ce déséquilibre, à votre avis, sur l'avenir du moteur franco-allemand, enfin, couple franco-allemand qui est le moteur de la construction de l'Europe? Et aussi, par là même, quelles conséquences peut-être sur l'Union européenne? Est-ce qu'il n'y a pas péril en la demeure?
Alors, je pense qu'il faut éclaircir les choses, aller jusqu'au bout, et en décapant tout ça, en procédant à une sorte de radiographie de la situation, on peut réduire les craintes qu'on peut avoir pour l'avenir, à force de lucidité. Il faut bien comprendre que le moteur franco-allemand s'est installé dans les années 50. Il a été encore renforcé par le général de Gaulle à partir de 1958. C'était un couple, si vous voulez, où, pendant longtemps, le cavalier était la France et la monture était l'Allemagne. Parce que l'Allemagne était divisée, parce qu'elle était encore sous le poids de ses responsabilités pendant la Deuxième Guerre mondiale, et la France menait l'attelage, en quelque sorte. Enfin, ce n'était pas une situation forcément saine. Ce qui fait que, on pourrait dire qu'on assiste actuellement à un certain rééquilibrage. Il est évident que le couple ou le moteur, on l'a vu encore dans les récentes crises, continue à fonctionner, mais la relation est plus équilibrée qu'elle ne l'était avant. C'est une vraie relation où l'on discute, on se met d'accord. D'abord, Berlin, encore au début des années 90, n'est pas obligé de suivre finalement Paris, comme ça a été souvent le cas. Là aussi, la relation devient plus normale, c'est plus équilibré d'une certaine façon. Je pense que pour l'avenir, passer d'une Europe à 6 à une Europe à 27 et bientôt 30 et quelques, le moteur franco-allemand est toujours nécessaire, comme diraient les mathématiciens, mais il n'est plus suffisant. Il est toujours nécessaire parce que quand il faut prendre une grande initiative, si Paris et Berlin ne sont pas d'accord, ça capote. Mais en même temps, il n'est plus suffisant parce que les autres partenaires, s'ils ne sont pas du tout d'accord avec une proposition franco-allemande, ils ne vont pas s'aligner automatiquement comme ils l'ont fait si souvent, je dirais, jusqu'aux années 90. Ce n'est d'ailleurs pas en soi malsain, parce que si on parle avec les Anglais, les Italiens et les autres Européens, ils éprouvent une sorte d'inquiétude, voire de ressentiment devant ce qu'ils appellent parfois l'axe Paris-Berlin. Donc là aussi, c'est un certain retour à la normale. Ce qui est intéressant, c'est que les Allemands comprennent mieux que nous Français, la nécessité de tenir compte, pas seulement du moteur franco-allemand, mais des autres pays. Les Allemands prennent toujours beaucoup de précautions pour que les autres pays européens, de la Pologne à l'Italie, en passant par le Benelux, l'Angleterre, l'Espagne, soient associés, au moins dans un deuxième temps, qu'on arrive à les convaincre, à discuter avec eux, qu'ils soient associés au processus, même si la bille est souvent lancée par Paris et Berlin. Culturellement, les Français ont un peu plus de mal à comprendre cela. Pour l'évolution de l'Europe, il y a deux grandes méthodes, qui sont d'ailleurs inscrites dans les traités européens. Il y a la méthode interétatique. Alors ça, c'est conseil des chefs d'État, de gouvernement européens, on sait ce que c'est, et là, effectivement, le moteur franco-allemand joue à plein. Et puis, il y a la méthode dite communautaire. Tout ce qui est vraiment communautaire et pas simplement interétatique, où on vote à Bruxelles à l'unanimité. Et là, si vous prenez le décompte des voix, Paris et Berlin ne suffisent pas à avoir la majorité, à eux deux. Ils ne peuvent pas, il faut convaincre les autres. La méthode communautaire est une façon de progresser tout en arrondissant les angles, tout en ne faisant pas apparaître comme excessivement bilatérales des décisions qui doivent être au niveau européen collectif. En fait, l'Allemagne joue sur les deux tableaux, d'une certaine façon, et je pense que ça correspond à l'état actuel de l'Europe, quoi qu'on en pense, en bien ou en mal. D'autre part, ce n'est pas malhabile, et que nous serions bien inspirés là, de prendre exemple sur elle.
Monsieur Soutou, je vous remercie pour cette analyse brillante, pour cet éclairage que vous avez donné à nos auditeurs. Pour en savoir plus, je les incite vivement à lire cette revue de questions internationales, « Allemagne, les défis de la puissance ». Je les invite aussi à retrouver Georges-Henri Soutou sur Canal Académie dans plusieurs émissions, notamment « Le couple franco-allemand a-t-il encore un avenir au sein de l'Union européenne ?»« L'histoire des deux Allemagnes de 1949 à 1990 »,« L'Europe de 1815 à nos jours » et bien d'autres. et aussi d'écouter sa chronique « Les leçons de l'histoire internationale ». Monsieur Soutou, merci.
Merci à vous.
Et à bientôt, j'espère.
À bientôt, certainement.